C'est Pierre Veuille pour le journal. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Dans le conflit à la SNCF, l'inspection du travail du Grand Est demande une suspension des trains avec un seul agent à bord. Dossier avec Maxime Deps. Comment se faire rembourser les billets annulés? Beaucoup de difficultés encore. Reportage à Toulouse. Les salariés de General Electric à Belfort approuvent à une très large majorité un plan social qui sauve 307 emplois. Après 4 ans d'investigation, l'enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 est terminée. Sans doute un procès début 2021. 4 géants pharmaceutiques aux États-Unis évitent un procès historique sur les opiacés. Ils ont trouvé un accord à l'amiable avec les plaignants. Ce sont des dizaines de milliards de dollars qui sont en jeu. Encore un coup dur pour Boris Johnson. Le président du Parlement à Londres refuse un nouveau vote sur l'accord de Brexit. Au Chili, après 3 jours d'émeutes et de pillages qui ont fait 11 morts, les habitants font des provisions. Ils craignent de nouvelles violences. Nous serons sur place. Attention aux ondes des portables d'avant 2016. C'est un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Nous écouterons un de ses experts. Carton rouge et rideau. Sébastien Vaamaina, exclu lors du quart de finale de la Coupe du Monde de rugby face aux Gallois, annonce qu'il met fin à sa carrière internationale. Au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, ce soir, nous plongeons-nous aussi dans cette folie Léonard qui s'est emparée du pays tout entier et qui précède l'ouverture de l'exposition Léonard de Vinci. Ce qui nous intéresse, c'est le personnage connu pour ses peintures, évidemment, mais il fabriquait aussi des machines de guerre. Léonard, un personnage complexe, parfois paradoxal, dans la tête de Léonard. Avec vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter. Le trafic SNCF est sur la voie du retour à la normale, même si le conflit n'est pas réglé entre les syndicats et la direction concernant la sécurité des trains circulant sans contrôleur. Dans l'ensemble, les trains Ouigo circulent normalement, de même que les TGV, selon la direction. Les TER, 3 trains sur 4, et les Intercités, 2 sur 3, continuent à être impactés au 4e jour de ce conflit social. L'inspection du travail d'Alsace intervient dans ce dossier. En Alsace, dans le Grand Est, 70% des TER circule sans contrôleur. Maxime Deps, bonsoir.
Bonsoir.
L'inspection du travail rappelle qu'elle a dénoncé cette situation depuis longtemps.
Oui, dans un courrier adressé aujourd'hui à la direction de la SNCF et que nous avons pu consulter, l'inspection du travail de Strasbourg préconise ce soir de suspendre tout simplement la conduite de ces trains par un seul agent à bord jusqu'à ce que les risques soient correctement considérés. L'inspection du travail qui pointe notamment des risques psychosociaux sur la base d'un rapport rendu en 2015. Il montrait ce rapport à l'époque que les conducteurs développaient très clairement des craintes à l'idée d'avoir possiblement à gérer un accident seul sur leur train. Dans son courrier, l'inspection du travail affirme que ce stress exprimé par les agents était connu de la direction depuis 4 ans, donc depuis la parution du rapport. La direction que nous avons joint et qui promet des propositions dans les 24 heures.
Alors clairement, Maxime Deps, l'inspection du travail à Strasbourg apporte son soutien aux revendications des syndicats.
Elle va en tout cas dans leur sens hein, pour les syndicats, y compris les plus modérés. Suspendre l'utilisation de ces rames au moins le temps de l'enquête commandée par le ministère des Transports serait une très bonne chose. À cela près que l'on compte plus de 700 de ces trains aujourd'hui en France. Par quoi les remplacer, c'est toute la question. C'est pour ça qu'à défaut, le minimum pour ces mêmes syndicats serait de remettre des contrôleurs à bord, soit une deuxième personne qui pourrait s'occuper des passagers en cas d'accident. Mais sur ce point, la direction reste ce soir inflexible.
Maxime Deps, toujours beaucoup de questions ce soir sur la procédure, sur les procédures pour obtenir le remboursement des billets à cause de ces arrêts de travail. Le trafic ferroviaire revient à la normale petit à petit en Occitanie, lentement mais sûrement. Encore des TER et des intercités supprimés à la mi-journée. Les clients l'apprennent souvent à la dernière minute à la gare. Alors la file d'attente est longue au guichet d'information comme à Toulouse, à la gare Matabiau, avec des usagers qui doivent trouver des solutions d'urgence et qui veulent des remboursements. Reportage Suzanne.
C'est le cas d'Evelyne. Elle devait partir samedi d'Albi pour rejoindre Lyon.
J'ai dû prendre un hôtel. Et puis le lendemain, donc dimanche, c'était impossible aussi. Donc j'ai dû prendre une deuxième nuit d'hôtel. Donc ma grande question aujourd'hui, c'est est-ce que ce surplus de frais, c'est-à-dire le billet de train plus les 2 nuits d'hôtel, est-ce qu'il va y avoir une possibilité de remboursement? Ça m'a coûté beaucoup d'argent.
238 euros d'avion pour Marie-Claire qui voyage avec son petit-fils depuis Nice. Ils vont dans le Lot et elle sort juste du guichet, mais pas d'infos.
Non, on ne me l'a pas expliqué. Ils sont surchargés, les jeunes qui donnent les renseignements. Ils sont deux, il y a 200 personnes.
Pourtant, tous les billets sont remboursés à 100%, promesse de la SNCF, avec un fonds d'indemnisation d'1 million d'euros pour les voyageurs qui ont dû payer des nuits d'hôtel ou des billets d'avion. Jean-Bernard, lui, voulait juste changer son billet.
Au guichet, ça s'est très bien passé. Des gens très aimables qui m'ont dit que normalement, il y avait un train. Pour les remboursements, il n'y a pas eu de soucis, hein, même si c'est compliqué d'avoir les infos, d'anticiper quoi que ce soit. Quoi. Eux-mêmes ne savent pas. Voilà.
Direction le service réclamation de la SNCF.
Voilà, Suzanne Sojaï à la gare Matabiau à Toulouse. Après des semaines d'âpres négociations, les salariés de General Electric à Belfort ont approuvé ce matin à une très large majorité lors d'un vote à main levée une nouvelle proposition de la direction prévoyant de ramener de 792 à 485 le nombre d'emplois supprimés par un plan social. Laurent Kramer, bonsoir.
Bonsoir.
En contrepartie, les salariés acceptent la suppression de certains avantages sociaux.
Et donc 307 postes précisément sont donc sauvés chez General Electric. Accord historique, soulignent les syndicats ce soir à Belfort, à l'exception de la CGT, l'intersyndicale accepte le principe de la suppression de 10 jours de RTT par an pour chaque salarié, l'augmentation de 5% de la productivité, l'augmentation du temps de travail annuel en équipe ou encore la suspension de l'épargne salariale, la réduction de primes pour les hauts salaires. Au total, 12 millions d'euros seraient ainsi économisés chaque année sur le site General Electric de Belfort, assorti, il est vrai, d'un plan de départ volontaire pour 485 salariés. Au-delà des 300 emplois sauvés par cet accord, un nouveau projet industriel est aujourd'hui sur la table. Se félicitent les syndicats également ce soir sous la pression de Bercy. General Electric promet de maintenir la production de turbines à gaz à Belfort, le temps de diversifier l'activité du site, notamment dans l'aéronautique, à l'horizon 2023.
Laurent Kramer.
Un geste financier du gouvernement.
Oui, le gouvernement s'engage à augmenter de 4,5 millions d'euros par an la subvention de la Société Nationale de Sauvetage en mer, la SNSM. Cela figurera lors des débats sur le budget à l'Assemblée dans la soirée. C'est Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui l'annonce. Il s'agit en fait de rattraper un gros raté fiscal. La surtaxation des yachts de luxe adoptée en 2017 était censée rapporter jusqu'à 10 millions d'euros pour la SNSM. Sauf que la taxe a rapporté pour 2019 seulement 288 000 euros. Réaction du président de cette Société Nationale de Sauvetage en mer, Xavier Delagorce, au micro de Mathilde Dehimi.
La taxe sur les yachts était envisagée entre 8 et 10 millions. Ça n'a rien donné parce que c'est compliqué de taxer les yachts, il n'y a pas beaucoup de yachts. Les yachts ne sont pas forcément taxables là où ils sont, ça ne pouvait rien donner. Donc ça s'est fait un petit peu dans la précipitation. Et c'est pour ça que le gouvernement et les parlementaires ont remis ça sur le chevet de manière à trouver un financement durable. Donc là, on a la moitié du financement, mais il n'est pas complètement durable. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'assurance de la pérennité. Nous avions demandé 9 millions parce qu'on a un besoin de 9 millions. La question, c'est la pérennité du modèle de la SNSM sur les 10 ans qui viennent pour pouvoir financer les bateaux et pouvoir financer le renouvellement des bateaux qui sont maintenant vieillissants et financer la formation des sauveteurs. C'est positif, mais je considère que c'est une première étape.
Après 4 ans d'enquête, les juges d'instruction ont terminé leurs investigations sur les attentats du 13 novembre 2015.
Oui Fabienne, les plus meurtriers à avoir jamais frappé la France, 130 morts, plus de 350 blessés, attentats revendiqués par les terroristes de l'État islamique. Au total, 14 personnes, dont 11 en détention provisoire, ont été mises en examen dans cette enquête. 1700 personnes se sont constituées partie civile. La fin de cette enquête ouvre la voie à un procès qui s'annonce hors norme, sans doute début 2021. Ce qui satisfait une des avocates d'un collectif de victimes, maître Frédéric Giffard, avec Emmanuel Leclerc.
C'est important pour les victimes, effectivement, que ces délais ne soient pas dilués dans le temps encore des années, parce qu'elles en ont besoin, elles, pour se reconstruire. On va aussi essayer d'organiser la parole des victimes, puisqu'on est tellement nombreux, et que ça, c'est un des gros défis de ce procès, c'est que ces victimes puissent être entendues malgré leur nombre. C'est hors norme à tous égards, c'est hors norme parce que la procédure est énorme, on est à plus de 40 000 cotes, ça veut dire des dizaines de milliers de pages d'investigation à appréhender pour tous les acteurs du procès, ce qui est quasiment inhumain, si vous voulez, dans les conditions normales de travail. Hors norme parce que on ne sait pas aujourd'hui qui sera vraiment dans le box des accusés. Un des risques du dossier, c'est qu'on va peut-être avoir un dossier qui, sur certains aspects, sera incomplet. Parce que certaines procédures étrangères ne seront pas rentrées à temps, parce que certains pays n'ont pas voulu collaborer entièrement. Donc il faudra travailler aussi avec des manques qu'il faudra combler.
Une des avocates des victimes des attentats du 13 novembre 2015, la fin donc de cette enquête et un procès sans doute début 2021. Direction maintenant les États-Unis. On attendait aujourd'hui l'ouverture du premier procès fédéral censé déterminer les responsabilités des entreprises pharmaceutiques dans la crise des opiacés qui a fait plus de 400 000 morts par overdose depuis la fin des années 90. Dossier tentaculaire réunissant plus de 2700 plaintes. Les entreprises pharmaceutiques accusées d'avoir fait une promotion agressive de ces médicaments ultra addictifs ont intensifié leurs efforts pour trouver un règlement à l'amiable avant le début des audiences, en jeu des dizaines de milliards de dollars. Eh bien, elles y sont arrivées à Cleveland. Loïc Loury, vous êtes un de nos correspondants aux États-Unis à New York. Bonsoir Loïc.
Bonsoir.
Que prévoit cette transaction qui a été négociée aujourd'hui ?
Eh bien, on parle d'un gros chèque, 260 millions de dollars qui ont été mis sur la table par trois géants de la distribution de produits pharmaceutiques aux États-Unis et par un laboratoire basé en Israël qui fabrique des opiacés génériques. Les quatre groupes devaient être aujourd'hui sur le banc des accusés. En face, les bénéficiaires qui ont donc accepté cet accord, ce sont deux comtés de l'Ohio très touchés par la crise des opiacés. Sans cette entente de dernière minute, eh bien, les deux plaintes auraient dû être étudiées en tout premier lors du procès programmé aujourd'hui. Une sorte d'audience test avant l'examen des autres dossiers. Au final, ces comtés ont accepté les 260 millions de dollars qui seront versés en cash, mais aussi sous forme de médicaments utilisés dans le traitement des dépendances.
Loïc Loury, est-ce que cet accord à l'amiable mis au point aujourd'hui peut être étendu à l'ensemble des plaignants ?
Alors le procès en tout cas est pour l'instant reporté puisqu'il ne restait plus qu'un seul accusé secondaire à juger, mais la solution annoncée pour autant n'est pas un accord global. Outre les deux comtés évoqués, en effet 2700 plaintes ont été déposées, la quasi-totalité des États américains sont concernés, mais aussi des comtés, des villes ou encore des tribus amérindiennes. L'accord final pourrait donc atteindre au moins 50 milliards de dollars et pour cela il faudrait transposer ce qui a été fait aujourd'hui avec l'ensemble des plaignants. Un accord pourrait être annoncé dès aujourd'hui. Ce qu'on peut dire, c'est que cette somme colossale reste peu de choses face aux conséquences de cette crise. Vous l'avez dit, 400 000 morts et entre les frais de santé, la productivité perdue ou les coûts pour le système pénal, la facture s'élèverait à 80 milliards par an pour l'économie américaine.
Loïc Loury, en direct de New York.
Les Chiliens tentaient de reprendre leurs activités aujourd'hui ?
Oui, après trois jours d'émeutes et de pillages qui ont fait 11 morts, c'est la pire explosion sociale depuis des décennies dans ce pays jugé en guerre par son président Sébastien Piñera. Les près de 8 millions d'habitants de la capitale, Santiago, ont vécu leur deuxième nuit consécutive sous couvre-feu. Selon les autorités, 1462 personnes ont été arrêtées. Ce sont les inégalités sociales qui sont à l'origine de ces manifestations. Écoutez ce jeune étudiant, Luis, il explique pourquoi il est dans la rue.
Depuis la dictature, toutes les réformes qui ont été faites dans tous les domaines, la santé, l'éducation, ne le sont jamais au bénéfice du plus grand nombre. Au contraire, elles avantagent à peine 5% de la société. Il y a eu trop d'abus. On a atteint la limite. C'est pour ça que les gens se sont regroupés pour descendre dans la rue.
Et les étudiants ont appelé à de nouveaux rassemblements aujourd'hui sur place à Santiago du Chili. Clara Dantec.
Les militaires sont toujours extrêmement nombreux place à Italia, point névralgique de la contestation ces derniers jours. Une dizaine d'entre eux surveillent l'entrée de la station de métro Baquedano qui a été saccagée durant les manifestations tandis que des hélicoptères survolent la place. Des effluves de gaz lacrymogène sont encore perceptibles dans l'air. Beaucoup de commerçants des environs doute de nouveaux affrontements violents ce lundi qui pourraient entraîner la mise en place d'un nouveau couvre-feu à Santiago pour la troisième nuit consécutive. Les cours à l'université ont été suspendus et une grève générale a été lancée à l'appel de plusieurs organisations sociales. Le chef de la défense nationale, le général Iturriaga, a tenté d'appeler au calme ce lundi après les déclarations dimanche du président Sébastien Piñera qui déclarait être en guerre contre, je cite, un ennemi puissant, une organisation criminelle. Le général Iturriaga a lui affirmé « Moi, je ne suis en guerre contre personne ». Santiago, Clara Dantec, France Inter.
La saga du Brexit, Boris Johnson ne désarme pas. Le Premier ministre britannique voulait une nouvelle fois un vote cet après-midi à la Chambre des communes sur l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Eh bien, le président de la Chambre a dit non, plus que jamais. C'est l'impasse. À Londres, Antoine Gignot.
Ce serait un vote répétitif et désordonné, explique John Bercow. Pour le président de la Chambre des communes, le texte présenté par le gouvernement est trop proche de celui qui a été débattu et rejeté samedi. Il rappelle la règle, un projet de loi ou une motion ne peut pas être présenté deux fois d'affilée aux parlementaires. La décision s'appuie sur la jurisprudence britannique, mais elle vient mettre des bâtons dans les roues du gouvernement. Il précise, certains vont être heureux, d'autres mécontents. Je cherche simplement à m'acquitter de mes obligations. Colère chez les eurosceptiques. Bill Cash demande à John Bercow de reconsidérer sa décision. Bernard Jenkins demande une audition spéciale pour que le président s'explique. Personne, pourtant, ne peut légalement contester sa décision. Le gouvernement présentera donc un autre projet de loi demain avec un vote qui n'aura qu'une valeur consultative. Mais si les députés valident le texte, Boris Johnson considérera de fait qu'il a le droit de mettre en route le processus de sortie de l'Union européenne. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Confronté à une mobilisation populaire sans précédent, le gouvernement libanais a adopté aujourd'hui une série de réformes longtemps bloquées, mais les manifestants ont continué de crier leur colère. À l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire, le premier ministre Rafik Hariri a annoncé un budget, Saad Hariri a annoncé un budget 2020 sans impôts supplémentaires pour la population, une baisse de 50% des salaires du président et des ex-présidents, des ministres et des députés, ainsi que de nouvelles taxes sur les banques. Retour en France, attention si vous possédez un téléphone portable d'avant 2016. Si vous le portez trop près de votre corps, dans une poche de veste ou de pantalon, il peut émettre plus d'ondes que ce qui est prévu dans la réglementation. Voilà ce que dit l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans un rapport publié aujourd'hui. Comme il reste des incertitudes sur les effets à long terme des ondes des téléphones portables, l'Agence appelle à une certaine prudence par principe de précaution. Olivier Merkel est scientifique expert de ces questions à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, il répond à Célia Quiré.
On considère que les utilisateurs de ces téléphones, donc qui datent d'avant 2016, ne devraient pas être exposés à ces niveaux élevés lorsqu'ils les portent tout près du corps. Plusieurs moyens pour éviter ces expositions. Donc en premier lieu, il y a des mesures qui peuvent être prises finalement directement par les fabricants. Je pense par exemple à des mises à jour logicielles des téléphones qui peuvent permettre de réduire leur puissance et donc du coup le niveau d'exposition. Et puis aussi, de manière encore plus simple, c'est d'aller lire finalement les notices de ces téléphones qui doivent en principe contenir les informations indiquant les conditions d'utilisation donc de ces téléphones. Et dans ce cas-là, les fabricants peuvent avoir indiqué qu'il faut les éloigner du corps, et puis d'une manière générale, tout simplement, éloigner de quelques centimètres le téléphone de soi permet de réduire grandement son exposition. Quand il est en communication, il ne s'agit pas de ne jamais le mettre dans la poche. Un téléphone en veille, par exemple, n'émet pratiquement pas, ou en tout cas très très peu, et effectivement, dans ce cas-là, on peut tout simplement téléphoner en le tenant à la main ou en l'écartant un petit peu. Parfois, il y a même des coques qui suffisent finalement à éloigner suffisamment le téléphone de la peau.
Les sports, la Coupe du monde de rugby au Japon, alors que les Bleus sont dans l'avion du retour pour Paris après leur défaite face au Pays de Galles. Le deuxième ligne du 15 de France, Sébastien Vaamaina, exclu hier pour un violent coup de coude lors du quart de finale face aux Gallois, annonce que ce match était le dernier de sa carrière internationale. Vaamaina affirme que sa décision n'a rien à voir avec ce carton rouge. À Tokyo, Jérôme Val.
Sébastien Vaamaina ne portera plus le maillot bleu. Annonce faite le jour de son anniversaire. Le joueur de 28 ans explique dans un court texte envoyé au journal Midi Olympique qu'il a pris cette décision il y a plusieurs mois et qu'il en avait informé à l'époque le sélectionneur et certains proches. Ce n'est donc pas son geste d'hier qui motive cette retraite internationale. Un geste qu'il assure regretter. « J'ai perdu le contrôle, trop d'envie et de volonté de marquer », écrit-il. Tout s'est mélangé dans ma tête avant de conclure « j'ai hâte de me reconstruire physiquement et moralement ». Le cas de Sébastien Vaamaina sera étudié jeudi par la commission de discipline de la Fédération internationale. Le Clermontois qui va se faire opérer du bras à son retour en France risque plusieurs semaines de suspension, ce qui le privera de matchs avec son club. Après 46 sélections, il quitte le 15 de France sur une élimination en quart de finale de la Coupe du Monde, match dans lequel il inscrit son seul essai en bleu et qu'il a marqué d'un geste impardonnable. Tokyo, Jérôme Val, France Inter.
Un mot de tennis, l'équipe de France comptera sur Gaël Monfils pour la phase finale de la Coupe Davis, nouvelle formule, du 18 au 24 novembre à Madrid. Monfils n'a plus joué en Coupe Davis depuis mars 2016. C'est la fin de ce journal. Dans quelques secondes, le téléphone sonne. Famille de Saint-Ès et Léonard de Vinci.
Absolument, Pierre Veil, merci beaucoup. On se retrouve demain, Pierre. Nous, on reste ensemble, en effet, pour le téléphone sonne. Bonne soirée, bonnes vacances, tiens, même pour certains en ce moment. Ça vous laisse du temps pour nous appeler. A tout de suite, Elodie Calacas à Besançon.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Élodie, j'ai jeté votre météo. Ah non, attention aux fortes pluies et aux orages en Méditerranée prévus demain. Trois départements sont toujours en vigilance orange.
Oui, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault. Alors on attend des pluies demain au sud. Alors sur les départements en vigilance orange, des orages parfois violents avec des pluies intenses, de la grêle, de fortes rafales de vent. Après un possible affaiblissement quand même demain après-midi, les orages reprendront de la vigueur la nuit suivante. Ce temps très agité persistera mercredi et glissera progressivement vers la Provence et vers la Côte d'Azur. Attention, on attend de fortes quantités de pluie. Sur le Languedoc-Roussillon, en 48 heures, on pourrait atteindre 150 à 200 mm de pluie, parfois jusqu'à 300. C'est à peu près un mois et demi de pluie, suivant les endroits.
Au nord, en revanche, temps sec?
Oui, alors gris le matin, plus lumineux quand même l'après-midi, mais encore bien nuageux. Pour les températures, 12 à 19 degrés et encore 29 degrés à Ajaccio.
Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.